matin.
Alors, ce matin, lorsque vous êtes sorti de chez vous, vous avez sûrement vérifié que la porte était bien fermée à clé.
So I'm sure that when you went out of your house this morning, you checked that the door was locked.
Si vous avez pris votre vélo ou votre voiture, vous avez peut-être vérifié que les pneus sont bien gonflés.
If you took your car or your bike, maybe you checked that the tires had the proper amount of air.
Si vous êtes venu en transport, vous avez peut-être vérifié que vous avez bien votre titre de transport.
And if you use transportation, you probably checked that you had your ticket with you.
Et puis vous êtes entré dans ce bâtiment, vous avez appuyé sur le 5 et vous êtes arrivé ici tout sourire.
And then you enter the building, you pressed on 5 in the elevator and you arrived here with a big smile.
Mais est-ce que vous avez vérifié que les fondations de ce bâtiment sont solides?
But did you check if the foundation of these buildings are of this building are solid?
Si vous voulez faire, je peux vous laisser 10 minutes pour y aller si vous voulez.
If you want to check that, I can give you 10 minutes.
Sûr? Personne
sure.
ne veut aller?
Nobody wants to go and check.
Vous êtes courageux.
You have a lot of courage.
Parce que quelles seraient les conséquences si les fondations de ce bâtiment étaient instables?
Because what would be the consequences if the foundation of this building were not stable?
Si les fondations n'étaient pas solidement ancrées dans le sol.
If they were not solid in the ground.
Alors je vous rassure, c'est le cas, c'est bien solide.
I'm going to reassure you, don't worry, it is a solid building.
Et on peut remercier vraiment l'architecte qui a fait ce bâtiment pour des fondations solides.
And we can thank the architect that did this building for strong foundation.
Les fondations apportent la sécurité à n'importe quelle structure.
Foundation brings security in every structure.
Et ce matin, nous continuons notre série sur les secrets du royaume de Dieu.
And this morning we are continuing our series on the secrets of the kingdom of God.
Et dans la parabole que nous allons voir ce matin, Jésus rappelle l'importance de fondations solides.
And in the parable we will see this morning, Jesus is reminding us of how important it is to have solid foundations.
Choisir le sol et y creuser des fondations solides est le secret d'une vie inébranlable.
Choosing the right type of soil and digging a solid foundation is the key to an unshakable life.
Alors nous allons lire ensemble Luc au chapitre 6. Versets 46 à 49.
So we'll read together Luke 6, verses 46 to 49.
Je vais d'abord lire en français, le texte sera aussi à l'écran, et ensuite Valérie lira en anglais.
We will read in French first, and then in English the text will be on the screen.
Donc à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt, elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande.
Starting at verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my word and does them, I will show you what he is like. He is like a man building his house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it, because it has been well built. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruins of that house was great.
Jésus s'adresse ici à une foule qui est venue pour l'entendre et pour être guérie.
Jesus is speaking to a crowd that came to hear him and to be healed.
Pour donner un peu de contexte, regardons un peu plus haut au verset 17 et 18.
In order to put ourselves in the context, if we can check verses 17 and 18.
Il descendit avec eux, c'est ses disciples, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie.
And he came down with them, his disciples, and stood on a level place with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirit were cured.
Ce passage dans Luc a son parallèle aussi dans l'évangile de Matthieu.
This part in Luke has a parallel in Matthew.
Au chapitre 5 jusqu'au verset 7, c'est le serment sur la montagne.
In chapter 5 up to verse 7, it is the sermon on the mount.
C'est le premier grand discours de Jésus où il parle d'aimer son prochain et aimer ses ennemis.
It's the first long speech that Jesus did where he's talking about loving your neighbor and loving your enemies.
Et Jésus conclut son long discours par cette parabole des deux maisons que nous venons de lire.
And he concludes his speech with the parable we just read.
Et vous avez remarqué que Jésus parle souvent en paraboles.
And you notice that Jesus often speaks in parables.
Il utilisait des histoires de la vie de tous les jours pour révéler des vérités cachées, des vérités célestes.
He's using stories from everyday life in order to reveal truth, heavenly truth.
Des vérités sur son royaume.
Truth about his kingdom.
Et ces vérités étaient uniquement accessibles à ceux qui voulaient entendre et accepter.
And these truths were only accessible to those that were ready to hear them and to accept them.
Et dans ces paraboles, Jésus pose souvent le parallèle entre le bien et le mal, le vrai disciple et le faux disciple, et sa volonté et celle du diable.
And in these parables, Jesus often draws parallel between good and evil, and between right and wrong, and the good disciple and the bad one, his will and the will of the devil.
Et ce matin, nous allons voir alors à trois aspects de cette parabole. La première, c'est l'importance d'une fondation solide pour notre vie, que nous soyons chrétiens ou pas.
And so we'll see three aspects of this parable, and the first one is the importance of a solid foundation for our lives, whether we are Christians or not.
Le deuxième aspect, l'obéissance et la mise en pratique de la, dans la vie chrétienne.
The second one is obedience and putting it into practice in the Christian life.
Et troisièmement, le secret d'une vie inébranlable.
And the third one is the secret of an unshakable life.
Alors, on va parler un peu de construction ce matin, tout d'abord.
So we'll talk about building this morning.
Et c'était très intéressant pour moi d'étudier un peu les fondations, la construction des bâtiments.
And it was very interesting for me to be able to study a little bit construction and foundation of buildings.
Donc les fondations sont le socle de toute structure, que ce soit une maison, un immeuble, un bâtiment, n'importe quelle structure a besoin de fondations.
So foundation is the base of any construction, whether it be a house, a building or any other structure, it needs a base.
Elles sont enterrées dans le sol et leur rôle est de répartir, de transmettre et de supporter la charge de toute la structure.
So they are buried in the ground and their role is to distribute, transmit and support the structure's load.
Elles doivent être adaptées à la nature du sol.
They need to be adapted to the kind of ground they're in.
Et au type de construction qu'on veut faire.
And also to the kind of constructions you want to do.
Et il est intéressant de voir que le secret d'une bonne fondation, c'est de creuser jusqu'au bon sol.
And it's interesting to see that the secret of a good foundation is to dig until you have the correct ground.
Et c'est souvent pour la raison pour laquelle le budget d'une construction d'une maison augmente alors qu'on n'a même pas commencé à monter les murs, c'est parce qu'il a fallu des fondations plus solides.
And it's often the reason why the budget of a building goes higher before even it has actually started, because they need to get the right foundation.
Et les conséquences d'une mauvaise fondation ou d'une fondation superficielle sont dramatiques, comme on a pu lire dans cette parabole.
And as we were able to read in this parable, the consequences of a poor foundation are dramatic.
Jésus nous parle ici de deux hommes, deux constructeurs.
Jesus is talking here about two men, two builders.
le premier constructeur a creusé, creusé, remarquez que le verbe est répété deux fois, profondément et a posé les fondations sur le rocher.
So the first builder dug, and if you notice it, dug is used two times, deep, and laid the foundation on the rock.
Et le deuxième a construit sa maison à même le sol, sans fondation.
And the second one put his house on the ground without foundations.
Et dans le discours rapporté par Matthieu, en parallèle, Jésus parle de l'homme qui a bâti sur le roc comme du sage, par opposition à celui qui a bâti sur le sable comme le fou.
And in the speech that Matthew is reporting, Jesus refers to the man who built on the rock like a wise man, as opposed to the man who built without foundation in the sand.
Et donc il y a déjà ici plusieurs aspects à analyser.
So we already have a few things to compare here.
Tout d'abord, le sage et le fou.
First of all, the wise man and the fool.
La sagesse dans la parole de Dieu, dans la Bible, est un thème qui est utilisé, qui est développé.
Wisdom in the Bible is a theme that is developed.
Et notamment dans le livre des Proverbes.
And in the books of Proverbs.
Le livre des Proverbes nous dit que la sagesse a construit sa maison.
It tells us in the book of Proverbs we can read that wisdom built her house.
C'est au chapitre 9, verset 1.
Proverbs 9, verse 1.
Et un peu plus loin, en verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence.
And we can see a little bit further in verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.
Donc la sagesse nous vient de Dieu pour construire des fondations solides.
So wisdom is given to us by God in order to build a strong foundation.
Deuxièmement, nous voyons que chaque constructeur a choisi le sol et le type de fondation qu'il voulait bâtir.
So we can see also that each builder chose the soil and the kind of foundation he wanted to build.
Et donc le texte laisse penser qu'ils ont choisi par eux-mêmes.
So we can deduct that they chose by themselves.
Il nous appartient de choisir le type de fondation et l'endroit où nous voulons établir notre maison.
It is up to us to choose the ground and the foundation on which we want to build our house.
Et troisièmement, cette parabole montre les conséquences de ce choix.
And then thirdly, this parable shows us what the consequences of this choice are.
Des conséquences dramatiques et irréversibles pour l'un et heureuses et permanentes pour l'autre.
Dramatic and irreversible for one and happy and permanent for the other.
Et remarquez que le torrent s'est jeté de la même manière contre les deux maisons.
And you can see that the stream hit both houses in the same way.
L'une a tenu, l'autre s'est écroulée.
Was able to stand and the other one was destroyed.
Et nos choix entraînent toujours des conséquences.
Our choices always have consequences.
Nos décisions mènent toujours vers une direction ou vers l'autre.
Our decisions will always take us from one side or the other.
Et au bout du compte, nos choix entraînent vers des conséquences bonnes et permanentes ou vers des conséquences mauvaises, mais qui sont aussi permanentes.
And in the end, our choices will lead us into consequences that are good or bad and will last or not.
Alors laissez-moi vous poser une question ce matin, me poser une question.
So I would like to ask us, all of us, a question this morning.
Sur quoi ai-je fondé ma vie ? Sur quoi repose la structure de mes croyances, de mes ambitions, de mes motivations ? Et si demain venait une tempête, si demain venait un accident de la vie, à quel point cette structure serait ébranlée ?
So what have I based my life is on what does the structure of my belief, my conviction, my ambitions, my motivations rest? And if tomorrow came a storm or an accident, how badly would that structure be damaged? How badly would my foundation be shaken?
En résumé de cette première partie, on voit que l'importance des fondations est importante pour une structure ferme et durable, et qu'une structure sur laquelle nous pouvons nous reposer est capitale pour notre vie.
So we can, if we want to sum up this part, we've seen the how important it is to have a stable ground and solid foundation as a firm and lasting structure in our life, a structure on which we can rest in confidence for our life.
Alors maintenant, regardons à l'obéissance et la mise en pratique. Qu'est-ce que cette parabole nous dit sur l'obéissance et la mise en pratique dans la vie chrétienne?
So we'll see now obedience and putting things in practice. What does that parable tell us about that?
Alors Jésus vient de dire plusieurs choses à la foule qui l'écoute.
So Jesus said a few things to the crowd that's listening to him.
Et il pose une question qui interpelle.
And he's asking a challenging question.
Verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis?
Verse 46, he says, why do you call me Lord, Lord and not do what I say?
Et Jésus s'adresse à une foule qui est venue pour deux choses: entendre et être guéri.
So Jesus is talking to a crowd that came for two reasons, to listen and to be healed.
Et Jésus pose toujours les bonnes questions.
And Jesus always asks the right questions.
Il leur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous faites pas ce que je dis?
So he tells them, why do you call me Lord and you're not doing what I'm telling you?
Jésus questionne la foule sur ses motivations.
Jesus is asking the crowd about what their motivation is.
Et cette question en soulève une autre.
And this question raises another one.
Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire?
What is it that he wants us to do?
Ça veut dire quoi, obéir?
What does obedience mean?
Mettre en pratique, mais mettre en pratique quoi?
To practice, but to practice what?
Je pense que la réponse est dans tout le chapitre qui est avant et je vais énumérer les principales choses que Dieu nous demande de faire.
So I think that the answer is in all the chapter that is right before that and I will make a list of them.
Vous pourrez relire à la maison, mais voici les thèmes principaux. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, verset 27.
So you can read the whole chapter after, but I'll just go through the things. Love your enemies, do good to those who hate you, verse 27.
Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
Bless those who curse you, pray for those who mistreat you.
Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre, verset 29.
If someone hits you on the cheek, show him the other, verse 29.
Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise.
If someone takes your coat, don't stop him from taking your shirt.
Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare.
Give to anyone who asks you and do not claim your property from someone who takes it.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres, verset 31.
What you want men to do for you, do you also likewise for them, verse 31.
Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, verset 35.
Love your enemies, do good and lend without expecting anything in return, verse 35.
Pardon. Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez.
Do not judge, do not condemn, forgive, give.
Jésus rappelle que pour entrer dans le royaume de Dieu, il suffit pas de l'appeler Seigneur, Seigneur, mais il faut accomplir sa volonté.
So Jesus reminds us that in order to enter the kingdom of God, it is not enough to say Lord, Lord, but we must do God's will.
Mettre en pratique ce que nous entendons.
And put into practice what we hear.
Regardons Matthieu 7, verset 21. Je vais le lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal.
Matthew 7:21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness.
Je me suis toujours dit, waouh, ce verset est vraiment, vraiment difficile.
I always thought, oh, that's a hard verse to read.
Car dans ce verset, Jésus ne s'adresse pas à des ennemis.
Because in this verse, he's not talking to enemies.
Il ne s'agit pas de personnes qui ont rejeté Jésus toute leur vie.
It's not about people that rejected Jesus for their whole life.
Il s'agit de chrétiens et de chrétiennes qui pensaient être dans la volonté de Dieu.
But he's talking about Christians that thought they were in God's will.
Qui pensaient bien faire, ils disaient Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom.
That thought they were doing well and who said but Lord, we prophesy in your name, we did miracles in your name.
Et quelle est la réponse de Jésus?
And what is God's reply?
Éloignez-vous, dehors vous qui commettez le mal.
Get out of the way, you evil doers.
Ici, Jésus met en évidence et combat une application superficielle de la vie chrétienne.
So here Jesus is highlighting and going against a superficial application of the Christian life.
C'est cette superficialité que les chefs religieux de l'époque pratiquaient.
It's that kind of a superficial practice that the religious leaders of those days were doing.
Tel que nous pourrions la pratiquer encore aujourd'hui.
And as we might be doing right now.
Venir à l'église le dimanche matin, c'est bien, mais sans un cœur d'adoration, c'est superficiel.
It's good to come to church on Sunday morning, but if you don't have a heart of worship, it's something superficial.
Faire preuve de générosité, c'est important. Mais sans un cœur de compassion, c'est superficiel.
Generosity is an important thing, but if you don't have compassion, it's superficial.
Et servir dans l'église c'est important, mais sans un cœur de service, c'est superficiel.
It's important to serve in the church, but if your heart is not serving, it is superficial.
Jésus est en train de dire à la foule, vous voulez être mes disciples, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, laissez-moi vous montrer ce que ça veut dire de me suivre et de mettre en pratique ma parole.
So Jesus is saying to the crowd, you want to be my disciple, you call me Lord, Lord, but let me show you what it means to do my will.
Laissez-moi vous montrer ce qu'il en coûte de me suivre.
Let me show you what it costs to follow me.
Rappelez-vous à un moment donné quand Jésus était avec sa mère et ses parents qui le cherchaient, il a dit celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère.
Remember when Jesus was with his brothers and with his parents at a certain point, he said, for whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother.
Et plus que de nous faire peur, alors ce texte devrait nous pousser à examiner nos motivations et à replacer Jésus au centre de nos motivations. Dans la prière, avec l'aide du Saint-Esprit.
So rather than frightening us, this text should prompt us to examine what our motivations are and put Jesus back in the center of our motivation with the help of prayer and the Holy Spirit.
Et cela nous amène à la troisième partie et la dernière sur le secret d'une vie inébranlable.
And so this brings us to the third and final part, what is the secret of an unshakable life.
Alors, la parabole des deux maisons met le doigt sur la différence entre le vrai et le faux disciple.
So, the parable of the two houses makes the difference between the false and the true disciple.
Elle nous amène à réfléchir sur nos motivations.
And it leads us to reflect and think about our motivations.
Cette parabole pose la question de la solidité des fondations de notre vie.
This parable raises the question of the solidity of the foundation in our life.
La solidité du socle sur lequel nous avons bâti notre maison.
The solidity of the base on which we put our house.
Et la Bible parle d'un autre rocher, inébranlable et qui est un refuge.
And the Bible speaks of another rock that is unshakable and that is a refuge.
Regardons ensemble à quelques versets, notamment 1 Samuel 2:2. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu.
We're going to check a few verses. 1 Samuel 2:2. There is none holy like the Lord, for there is none beside you. There is no rock like our God.
2 Samuel au chapitre 22, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur.
2 Samuel 22, we can read, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer.
1 Corinthiens au chapitre 10, et ils, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ.
1 Corinthians 10, 4, and all the people of Israel drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ.
Christ est appelé le rocher, il est aussi appelé la sagesse. Regardons aussi 1 Corinthiens verset 30, pardon. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice et la source de notre sainteté et notre libérateur.
So Christ was called rock, but he's also called wisdom. We see in 1 Corinthians 1:30, and because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption.
Alors, comment Jésus est devenu notre sagesse, notre forteresse, notre justice, notre libérateur?
So how did Jesus become our wisdom, our righteousness, our justice, our redemptor?
C'est en mourant sur un autre rocher, le rocher de Golgotha, en prenant notre péché et en ressuscitant victorieux le troisième jour.
It is by dying on another rock, the rock of Golgotha, taking our sin and rising victorious on the third day.
Et c'est parce que Jésus a triomphé de la mort et qu'il est maintenant solidement établi dans le ciel et éternellement dans le ciel que nous pouvons nous reposer sur lui, chacun et chacune qui vient à lui.
So it is because Jesus triumphed over death and that he's eternally in heaven now that everyone can come to him and build his life on him.
Et lorsqu'on regarde tous les personnages de la Bible, ils ont pratiquement tous un point commun, en tout cas ceux qui mettaient leur confiance en Jésus, ils reposaient leur force, leur espérance, leur conviction sur Jésus, le rocher spirituel.
And when we look at the characters in the Bible, most of them have a thing in common in their life. It is that they rested their strength, their hope, their convictions on Jesus.
On peut noter dans la parabole qu'on vient de lire que Jésus donne trois étapes dans la description du vrai disciple. Au verset 47, il dit « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend et met en pratique. »
So we can see in this parable that Jesus gives three steps in that parable. He says in verse 47, everyone who comes to me and hear my words and does them, I will show you what he's like.
Donc premièrement, venir à Jésus.
So come to him.
La foule était venue à Jésus.
The crowd had come to Jesus.
Vous êtes venu à Jésus ce matin.
You came to Jesus this morning.
Et si vous êtes là pour la première fois, c'est que vous avez un intérêt pour Jésus de toute manière.
And if it's the first time you're here, it means that Jesus is interesting to you.
Pour mettre en pratique, il faut déjà venir.
In order to practice, you need to come first.
Mais il faut aussi entendre.
But you also need to hear.
Entendre le message que Jésus apporte.
You need to hear the message that Jesus is bringing.
La foule était venue pour entendre.
The crowd came to Jesus to hear.
Alors aujourd'hui, Jésus n'est plus terrestre, mais il est bien céleste.
So Jesus is not on earth anymore, but he's in the heavens.
Mais il nous a laissé sa parole, la Bible.
But he gave us his word, the Bible.
Et le Saint-Esprit qui nous révèle les vérités de Jésus.
And the Holy Spirit that reveals us Jesus' truth.
Et c'est pour ça que ce matin aussi, on peut lire la parole ensemble et la comprendre ensemble.
And that's the reason why this morning we can read the word together and we can understand the word together.
Et de la même manière que le constructeur a creusé, nous devons aussi creuser cette parole de Dieu.
And just in the same way that the builder dug, we need to dig in God's word.
Jusqu'au bon sol.
To dig. Until we found the right soil.
Jusqu'à la bonne terre.
Until we find the right ground.
Dans laquelle nous pourrons ancrer solidement nos fondations.
In which we can anchor our solid foundation.
Et ça demande de creuser aussi longtemps que nécessaire.
And that means we need to dig as long as needed.
Et aussi profond que nécessaire.
And as deep as necessary.
Troisièmement, la mise en pratique.
Thirdly, to put things in practice.
Donc la foule était venue. Elle avait entendu, mais combien étaient prêts à repartir pour mettre en pratique?
So the crowd came, they heard, but how many of them were ready to practice what they heard?
Combien ont prié pour leurs ennemis?
How many prayed for their enemies?
Ont donné à celui qui avait besoin?
How many gave to the one that was needy?
Ont béni, ont pardonné?
How many blessed and forgave?
Et Jésus savait bien que parmi cette foule, peu le suivront.
Jesus knew that in that crowd, just a few people would follow him.
C'est pour ça qu'il a terminé son discours en disant, vous avez entendu tout ça, et vous m'appelez Seigneur, mais est-ce que vous allez le mettre en pratique?
And that's why when he finished his speech, he said, you heard all this and you're calling me Lord, but will you put those things in practice?
Si nous voulons être une communauté qui reflète l'amour de Jésus, nous devons aussi mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire.
If we want to be a community that reflects Jesus' love, we also want to be ready to practice what he's asking us.
Car en tant qu'église, en tant que peuple de Dieu, nous sommes édifiés, nous sommes fondés sur Jésus.
Because as a church, as a people of God, we are edified and founded on Jesus.
Regardons en Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21.
We read Ephesians 2, verses 19 to 21.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone.
Alors, si vous faites partie du peuple de Dieu ce matin, Jésus-Christ est votre rocher.
So if you are part of God's people this morning, Jesus Christ is your cornerstone.
Bâtissez sur lui, ancrez vos fondations en lui et méditez la parole de Dieu, creusez cette bonne terre aussi profondément que nécessaire.
Build on him, put your foundations on him and dig the good ground as deep as necessary.
Et si vous n'êtes pas encore chrétien, alors j'aimerais vous reposer cette question ce matin.
And if you're not believer yet, I would like to ask you this question again this
Sur
morning.
Quoi avez-vous fondé votre vie?
On what have you founded your life?
Sur quoi repose la structure de vos motivations, de vos convictions, de vos croyances?
What is the base of your beliefs or your convictions on your ambitions? What is it based on?
Et si Jésus-Christ était cette structure inébranlable?
And what if Jesus Christ would be that unshakable structure?
J'aimerais prier.
We would like to pray.
Seigneur Jésus, merci pour ce texte que nous avons pu regarder ce matin ensemble.
Lord Jesus, we thank you for this word we were able to look at together this morning.
Merci parce que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit de ta parole.
We thank you because your word and your Holy Spirit gives us light.
Merci parce que tu es le rocher de notre salut, le rocher de notre vie.
And thank you because you are our rock, you are the rock of our salvation and of our life.
Et je te prie de nous aider chaque jour à ancrer davantage notre fondation en toi.
And I pray that you can help us to anchor our foundation in you every day.
À comprendre davantage ta volonté et à la mettre en pratique.
To understand your will and to be able to practice it.
Je prie tout cela au nom de Jésus. Amen.
I pray all this in Jesus' name. Amen.